c'est la dernière année de la presse cinéma en France. La revue French Mania qui publie aujourd'hui son deuxième numéro, près de 8 mois après la parution du premier et à 2 semaines de la réouverture des salles. Au sommaire, un dossier sur les Français à Hollywood, réalisatrices, réalisateurs, acteurs et pour cause, ce MOOC, comme on dit, ne parle que du cinéma français et francophone. Un choix éditorial fait entre autres pour se démarquer dans un marché très concurrentiel. Bonjour Ava Kahn.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la co-rédactrice en chef de French Mania avec Franck Finance Madureira, faut pas que je me trompe. Vous êtes également critique de films, on vous voit notamment dans Le Cercle sur Canal+. Pour commencer, celle de Sidney Bechet, Si tu vois ma mère, 1952, c'est le morceau qui ouvre Minuit à Paris de Woody Allen. Woody Allen, justement, à qui vous consacrez le premier gros papier de la revue. Oui. Pardon de dire les choses comme ça, mais on a fait mieux comme Réal français, non?
Oui, non, c'était pour s'intéresser. On a une rubrique qui s'appelle le French Verse. Donc on essaye d'aller trouver les marqueurs, les traces des acteurs français, du cinéma français, dans les films américains. Donc le premier numéro, c'était Wes Anderson, le cinéma de Wes Anderson. Et donc on est allé enquêter sur ça. Et puis le deuxième, Woody Allen, qui a évidemment un amour fou pour Paris, pour la France, et ça, ce n'est plus à prouver.
Et c'est vous qui signez l'article. Pourquoi ce choix de Woody Allen? Vous l'avez dit, je vais dire le sous-texte, réalisateur également désormais controversé aux États-Unis avec ses accusations d'inceste.
Alors, parce que c'est l'un de mes réalisateurs préférés, alors je n'ai aucun problème à le dire, je trouve que c'est un cinéaste unique en son genre, il a une filmographie d'une richesse infinie, et donc je suis présidente aussi du Woody Club à Paris, qui est un ciné-club au Christine Cinema Club depuis quelques temps déjà, depuis 2016. Donc ça me semblait évident en fait de commencer la revue avec le French Verse et avec ces films merveilleux, parce qu'on y retrouve justement Marion Cotillard, et ouais, on en parle plus tard dans le dossier des Français à Hollywood. Enfin voilà, il y a évidemment plein de visages qui nous sont familiers dans le cinéma de Woody Allen. Il y a Léa Seydoux également, enfin il y a Guillaume Gouix, ouais, Audrey Fleurot.
Mais ma question était, pourquoi ne faire aucune mention à l'affaire, quitte à dire que justement, selon vous, elle est secondaire ou c'est pas le sujet de votre magazine?
C'est pas du tout le sujet. On voulait vraiment se concentrer sur les films. Mais là, il y avait absolument pas de prisme idéologique. C'est un vrai article journalistique sur le cinéma de Woody Allen. Et c'est pour ça qu'on a choisi comme titre La France et les Français dans le cinéma de Woody Allen.
Voilà. Donc vous tournez le dos à la culture du woke qui consiste justement
non,
à
pas
occulter.
Pas tout à fait, mais en tout cas, pas pour cet article
aussi. Vous auriez pu le supprimer.
Oui.
Vous auriez pu
ne
pas traiter le sujet.
Pas du tout.
Le morceau de Sidney Bechet qu'on a écouté il y a quelques instants, c'est la chanteuse Barbara Carlotti, oui, qui l'a sélectionnée. Elle vous propose sa playlist, 11 titres pour 11 des articles de la revue. C'est une manière de ne pas oublier la musique, un des éléments clés d'un film, ou c'est une manière de lire le magazine chez soi avec de la musique qui tourne?
Les deux, en fait. On avait eu cette idée, dès le premier numéro, d'inviter soit un artiste mélomane, soit une chanteuse ou un chanteur à venir justement créer cette playlist. Donc on leur envoie le sommaire, et puis en fonction, eh bien, voilà, ils nous proposent différents morceaux qui peuvent se lire, donc en même temps, et s'écouter en même temps qu'on lit le magazine. Et puis bien sûr, la musique au cinéma est essentielle, et on a une rubrique qui s'appelle Métier, et justement dans ce numéro 2, on met à l'honneur un compositeur de musique de film qui s'appelle Amine Bouafa.
Alors ici on est une émission média, je vous apprends rien, le cinéma est l'un des sujets les plus traités par la presse, que ce soit la presse spécialisée ou même la presse quotidienne. Pourquoi avoir lancé une revue sur le cinéma?
Ah là là, parce qu'on l'aime passionnément le cinéma, en fait on pense, on mange, on vit, on rêve cinéma. On a monté ce titre avec Franck Finance Madureira donc en 2017. Et d'abord, pour ne pas être frustré, parce que c'est un temps long de créer une revue, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on a créé un site internet pour pouvoir parler de l'actualité du cinéma français et francophone, puisque ce sont vraiment les deux univers qui nous plaisent le plus. Ce n'est pas une niche. Et puis on voulait finalement dire aussi, à travers à la fois la revue et le site, que le cinéma français était pluriel, qu'il était divers, que les jeunes auteurs nous intéressaient beaucoup, et voilà, qu'on était très émus par eux.
Je doute pas du tout du cinéma. Moi, ma question, c'était autour de la presse. Qu'est-ce qui vous différencie des autres magazines de cinéma?
Eh bien, disons qu'on n'a pas voulu justement prendre le pli du magazine. On a vraiment décidé de sortir un objet, un livre, quoi. Ouais. Vraiment, on l'a pensé et
MOOC,
conçu
c'est la
contraction
de magazine et de book.
C'est ça, exactement. Et puis, on voulait que ce soit un objet de librairie et non pas un objet de kiosque. Donc, on a essayé de casser un petit peu les code de chapitrer cette revue comme un livre avec plusieurs sections, plusieurs rubriques, de proposer un contenu vivant, riche, à la fois les coulisses du cinéma et à la fois aussi un regard analytique, une réflexion sur l'industrie comme sur les films et puis la manière dont les artistes travaillent. Donc voilà, on voulait recouper toute cette matière. C'est vraiment la revue dont on rêvait. Hein. Voilà.
Revue semestrielle, donc ouais. Deux numéros par an, c'est édité par les éditions du Rocher.
Tout à fait. C'est la première revue, enfin l'une des premières revues de leur catalogue en tout
voilà,
cas.
Voilà, qui est un vrai éditeur Capignon-sur-Rue sur la place de Paris. Pourquoi ce choix ? C'est vous qui avez démarché les éditeurs ? Comment ça s'est passé ?
Alors en fait, j'avais écrit un livre sur Game of Thrones décodé aux éditions du Rocher. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec cet éditeur et puis très vite je leur ai parlé de French Mania et de cette envie justement de créer une revue pas comme les autres, très différente de ce qu'on trouve, avec dedans un regard amoureux. C'est le slogan, hein, c'est le sous-titre de French Mania, un regard amoureux sur le cinéma français.
Mais oui,
et francophone.
Un regard amoureux sur le cinéma français et francophone, c'est votre phrase d'accroche. Quand on est amoureux, on n'est pas très critique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'article critique de film dans la revue.
Non, mais il y en a sur le site. Voilà. Donc on essaye de créer une complémentarité, encore une fois, entre le web et le papier pour qu'on s'y retrouve. Donc bien sûr que quand on est amoureux, ça ne veut pas dire bisounours ou ça ne veut pas dire je ne sais pas qu'on ne voit pas les défauts des uns et des autres. Non, au contraire. Mais dans cette revue, pour ces 180 pages, on voulait vraiment parler que ce dont on aime, quoi.
Voilà, et les films que vous aimez pas, vous n'en parlez pas.
On en parle sur le site éventuellement.
Donc de quoi parlez-vous dans French Mania ? Les films que vous aimez, les jeunes talents, les premiers films, c'est surtout ça l'angle. Où est-ce qu'il vous arrive de voler au secours de la victoire ?
Non, c'est surtout les premiers films qui nous intéressent. Je suis aussi au comité de sélection de la Semaine de la Critique à Cannes depuis quelques années déjà. Et donc, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la jeune production, aux jeunes talents, aux jeunes artistes. Et donc, ça nous semblait tout à fait naturel d'aborder le cinéma français à travers ce prisme-ci, à travers le prisme de la jeunesse. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de regard, parce que la jeune génération, je trouve, en a un.
Puisque vous parlez de regard, les premiers films, les jeunes talents, par exemple avec Chris Hubby, grand reporter, ouais. Photographe, il va tourner son premier film, le tournage doit commencer en novembre, son titre c'est Mintaka, un film dont il vous livre au passage, plutôt dont il vous livre quelques passages, ouais. Dans une rubrique étonnante, ça s'appelle Moodboard. Qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il, c'est quoi un moodboard ? Je vais le montrer à la caméra pour les gens qui nous regardent sur europe1.fr pendant que vous nous expliquez ce que c'est.
Alors on a lancé cette rubrique dès le premier numéro, un moodboard, c'est l'ensemble des inspirations, des références, des humeurs de travail d'un réalisateur. Alors pour le premier numéro, c'était Sébastien Marnier qui nous offrait le moodboard de son troisième long métrage, L'Origine du Mal, qui vient d'être tourné. Et donc là, c'est Chris Hubby, qui est donc reporter de guerre, qui nous a communiqué un certain nombre de matières. Alors c'est des photos de ses reportages, c'est aussi des storyboards. Donc le storyboard, c'est du dessin de séquences. On sait clairement où est-ce qu'on en est dans le scénario. Voilà, donc c'est très intéressant et on trouvait ça super de donner cette matière aux lecteurs, quoi, parce que évidemment qu'on parle souvent beaucoup des films finis, et donc on a souvent les critiques à lire une fois les films terminés, mais nous ce qui nous intéresse c'est aussi les coulisses et comment se font ces films, et donc on donne la parole à celles et ceux qui les font.
Justement, un mot, si vous avez choisi ce premier film, Mintaka, c'est pas par hasard, que va raconter ce film ?
Eh ben, c'est un film, c'est un thriller plutôt dans un milieu hostile qui devrait se tourner en Tunisie, et puis on suit un jeune homme dans plusieurs geôles qui est retenu prisonnier et qui va connaître l'enfer du désert, et c'est avec Nawel Perez Biskaya, ouais.
C'est tourné en Tunisie, mais ça raconte pas la Tunisie, non. Ça raconte la Syrie et ça raconte la guerre. C'est beaucoup plus la Tunisie, c'est pour des raisons de praticité qu'il va aller tourner en Tunisie.
C'est ça.
Donc on n'imagine pas que ce soit l'enfer en Tunisie.
Non, non, pas du tout. Non, non, il le recrée, cet enfer en Tunisie en tout cas.
Quatre grandes parties dans French Mania, lesquelles ? Réponse avec Kava Kahen, c'est la co-rédactrice de cette revue qui sort en ce moment son deuxième numéro seulement. À tout de suite. En compagnie d'Ava Kahen, co-rédactrice en chef de cette revue semestrielle, c'est un MOOC, ça s'appelle French Mania. Il s'intéresse au cinéma, mais seulement le cinéma français ou francophone. Quatre grandes parties, disais-je, dans French Mania à l'œuvre, sur le travail créatif, on vient d'en parler avec ce moodboard, rencontres, sont des interviews, feuilletons, on y parle de séries en tout genre, on va y venir, et le dossier, dans ce numéro, le dossier est consacré aux Français à Hollywood. Compte tenu de l'actualité, à savoir les Oscars, il y a dix jours, on s'est dit, bim, ils ont tapé dans le mille. D'ailleurs, ouais, vous parlez de Florian Zeller, Fazer, mais quand on vous lit, on comprend que vous avez écrit les papiers avant.
Tout à fait. Ben
la cérémonie, ça vous a frustré qu'il n'ait reçu que l'Oscar du meilleur scénario adapté ?
Alors, Non, ça m'a pas frustrée. Je me réjouis qu'il ait reçu cet Oscar.
Qui n'est eu que ça, parce qu'il était en liste pour 6.
C'est déjà forcément génial. Enfin, ouais. Voilà. Et puis la prestation d'Anthony Hopkins qui a été aussi récompensée. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, on peut parler de l'actualité sur le site de Frenchmania. Donc, il n'y a pas de frustration à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on a pensé ce dossier il y a déjà un certain moment, avant en tout cas ces cérémonies de remise de prix internationales. Mais il y avait des tendances, il y avait des marqueurs, évidemment, voilà, des éléments qui nous mettaient la puce à l'oreille. Mais c'est surtout une histoire qui nous fascine, l'histoire des artistes français à Hollywood. Et elle n'est pas exhaustive, hein, cette histoire, même si elle occupe 50 pages dans la revue, mais on aurait pu en faire 180. Mais on a voulu vraiment raconter notre histoire à travers justement des parcours singuliers et de donner de prêter la voix à certains talents qui vont travailler à Hollywood.
Et vous parlez d'une des pionnières, sinon la pionnière, à être une Française qui est partie à Hollywood, Alice Guy, réalisatrice prolifique, tombée dans l'oubli et qui commence à sortir de l'oubli. D'un mot, son histoire.
Oh là là, il faudrait beaucoup plus d'un mot, mais oui, elle a été effacée de l'histoire par Méliès, mais elle est absolument formidable. Il y a plein de plateformes en ce moment qui diffusent justement les films d'Alice Guy et je vous encourage à aller les voir. Ça a été une pionnière et elle est allée pour défendre les films de la Gaumont jusqu'à New York, puisque c'était à New York au début que se trouvait l'industrie du cinéma et non pas Hollywood.
Une autre première pionnière, je vais arriver à le dire avec ce masque, du moins c'est comme ça que vous la présentez, c'est l'actrice et réalisatrice Julie Delpy. Pourquoi parlez-vous à son sujet de pionnière ?
Parce qu'elle est unique en son genre, elle aussi, et puis c'est vrai que c'est une actrice qu'on a vue dans le cinéma de Richard Linklater, qui nous a tout de suite fait beaucoup d'effets, et puis qui le dit très justement dans l'interview, hein, elle n'est pas dans le système, elle n'est pas dans le sérail, Hollywood, finalement c'est très loin pour elle, elle adore le cinéma américain, ça se sent même dans ses propres films, je trouve, on y retrouve certains marqueurs.
Parce qu'elle tourne là-bas et en anglais. Hein.
Absolument.
Et elle est inscrite dans la production américaine.
Exactement. Mais en même temps, elle est aussi système D, tout ça, débrouille, et donc on aime bien ces cinéastes qui travaillent de manière indépendante. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup dans Frenchmania au cinéma d'auteur et au cinéma indépendant.
Les Français à Hollywood, qui est le plus demandeur dans l'histoire ? Sont les Français ou les studios hollywoodiens ?
C'est une bonne question. Bah, je pense qu'il y a certains Français qui ont quand même un rêve américain à aller accomplir. Hein. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, oui, de plus en plus, les studios ont des deals. On parle beaucoup de coproduction. Donc forcément, qui dit de l'argent français dit faire venir un acteur ou une actrice française dans un film. Et voilà, oui, ça s'explique.
Alors, j'ai cherché dans la revu des noms, les noms des deux plus grandes stars françaises actuellement aux États-Unis, Omar Sy, Danny Boone. Ils sont mentionnés qu'une seule fois au détour d'une phrase. Pour quelle raison ? Ça vous fait sourire ?
Ça vous a fait sourire.
Mais... Si.
Non, on en parle effectivement. Alors, on parle notamment de Danny Boone et de Omar Sy avec la critique internationale parce qu'on trouvait ça intéressant justement de demander à des critiques américains ou des critiques canadiens comment ils percevaient la success story de certains Français à Hollywood. Ouais. Et c'est vrai que les noms qui reviennent tout de suite, ce sont ceux d'Omar Sy et de Danny Boone. Après, Danny Boone vit à Los Angeles, mais n'a pas encore connu de succès américain. C'est pour ça qu'on ne fait que le citer.
Et Omar Sy, alors vous l'habillez un peu pour l'hiver, parce que moi je pensais qu'il cartonnait là-bas, et je vous lis Omar Sy, le plus populaire des comédiens français, acceptant des rôles secondaires dans des franchises ultra populaires pour espérer séduire l'Amérique, à savoir X-Men, Jurassic World, Inferno. Dans ma tête, il avait des gros rôles dans ces films-là.
Non, c'est des tout petits rôles, c'est des apparitions. Et puis c'est ce que nous dit justement l'une des critiques américaines, Lisanne Salson. On ne voit même pas son nom sur l'affiche américaine. Donc voilà.
Ouais. Hollywood fait rêver, un rêve qu'ont atteint certains réalisateurs français, il faut le dire. Des réalisateurs de films d'action comme Jean-François Richet ou Florent Emilio Siri, ça n'a pas duré. Ils sont rentrés en France. Pourquoi Hollywood ne leur a pas réussi ?
C'est une vraie bonne question. Je pense que c'est une machine. C'est une industrie qui...
Est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est conjoncturel ?
Les
tout
deux,
le monde ne réussit pas tout
deux,
le temps. Ou est-ce que c'est
réponse à la Normande,
c'est la manière de travailler d'Hollywood qui ne convient
qui ne
pas aux
pas.
Français ?
Après, il y en a certains qui ont plus les codes que d'autres. Je pense beaucoup, évidemment, à l'écurie Besson. À tous ces réalisateurs que vous avez cités, Louis Leterrier, Alexandre Aja, pour le coup, a complètement les codes de l'industrie américaine, ne fait que des films blockbusters. Avec
Alexandre Aja, ce sont des films d'épouvante.
Tout à fait, voilà, Piranha, La colline des yeux. Voilà,
terrible.
Exactement. Terrible film,
mais
il a trouvé les codes.
Je vais juste le dire comme ça, je vais faire une petite reco, je n'ai jamais peur au cinéma, sauf avec La colline des yeux,
terrible.
Je n'ai jamais vu un film qui fait aussi peur que ce film d'un Français, Alexandre Aja.
Alors que Piranha 3D est très drôle, y a beaucoup d'humour. Donc ça, c'est aussi la série B. Enfin bon, voilà, ça flirte avec tout ces codes. Mais c'est une culture que des cinéastes comme Aja ou Le Terrier ont complètement fait leur. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a d'autres carrières qui sont plus délicates. Mathieu Kassovitz, quand effectivement, il part à Hollywood et qu'il fait Babylon AD, bon, ben, le tournage est un enfer. Son acteur principal est dictatorial sur le tournage. C'est absolument affreux. Et puis, c'est beaucoup d'argent en jeu, quoi, aussi. Et donc, c'est vrai que c'est pas les mêmes sommes, pour le cinéma français et pour le cinéma américain. Donc, je comprends vraiment qu'on ait envie d'aller tourner aux États-Unis. Mais ouais, c'est vrai que je suis plus sensible à des carrières comme celle de Dupieux, qui prend sa petite caméra, qui va sur le sol américain et qui fait des films singuliers à sa façon, sans pour autant chercher à taper dans l'œil du marché américain, justement.
Quentin Dupieux, il y a un film sur lui dans French Mania. Dans votre revue, il y a également une section feuilleton, on l'a dit, dans laquelle vous parlez de séries. Que viennent faire des séries dans une revue consacrée au cinéma?
Alors moi, j'ai toujours écrit sur les séries et le cinéma. À la base, on avait monté un magazine qui s'appelait Clap, qui était un magazine généraliste de cinéma et de séries. Et puis aujourd'hui...
Non mais pour vous, c'est pas deux genres différents?
Ah non, pas du tout. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie fusion, justement, entre ces deux univers qui ne sont plus du tout imperméables l'un à l'autre. Et on le voit par exemple avec la série En Thérapie. C'est pas anodin que deux cinéastes comme Toledano et Nakache viennent aujourd'hui réaliser pour la télévision. Donc ça nous semblait très important d'évoquer ça.
Il y a des puristes qui nous écoutent et qui vont hurler et qui vont dire que la fameuse phrase de Godard, la télévision on baisse les yeux, le cinéma on lève la tête.
Et ben non, je crois
qu'au contraire. Et maintenant il y a des écrans géants, ça se regarde absolument pas de la même façon, le cinéma et les séries.
Oui. Mais moi je trouve qu'il y a des choses très réjouissantes dans les séries. Et nous, ce qui nous intéresse à travers ce feuilleton, on raconte, c'est Xavier Le Herpeur qui raconte la grande histoire des séries françaises, et justement dans la télévision, il y a des questions de société qui sont posées et qui nous intéressent, et donc on avait envie de parler aussi de diversité, de représentation, des thématiques LGBT, et ça se passe davantage souvent sur le petit écran que sur le grand.
Alors, c'est en plusieurs épisodes cette grande histoire des séries françaises, en 4 épisodes, là on est au deuxième. Ça parle des nuls, ça parle de plein de choses. Vous avez un projet encore plus ambitieux, l'écriture d'un scénario façon cadavre exquis. De quoi s'agit-il? Expliquez.
Alors en fait, c'était vraiment on fait cette revue de façon très sérieuse, mais on a envie aussi de créer quelque chose d'un peu ludique. Donc on a demandé à des réalisatrices et scénaristes
que des femmes,
de prendre le relais l'une de l'autre et de créer un scénario. Alors elles n'ont absolument aucune contrainte, sauf une contrainte de page. Donc on leur dit ça doit faire 10 pages, donc un nombre de signes. Voilà, qui est donné.
Ah,
mais sinon, voilà, c'est Catherine Corsini donc, qui a ouvert le bal avec un sacré scénario, puisqu'elle nous embarque en 2086. Et donc, c'est un film d'anticipation qu'elle commence à écrire. Et dans ce deuxième numéro, c'est Anna Cazenave-Cambé qui prend son relais. Et Anna Cazenave-Cambé sort son premier film prochainement, De l'or pour les chiens. Donc, on est ravis qu'elle ait pris le relais.
Mais s'il n'y a aucune limite, ça veut dire que peut-être ce film ne pourra jamais se tourner parce que ça va coûter trop cher.
Peut-être. Et en même temps, on l'espère parce que c'est vrai qu'on l'a fait.
Drôle,
on l'a quand même fait pour ça, voilà.
Faites un scénario en espérant qu'il ne se tourne jamais.
Non, qu'il se tourne justement, qu'on arrive à trouver une productrice.
Ah oui, mais si vous faites de la science-fiction, c'est très très bien que ça coûte un bras. Faire de la science-fiction, ça coûte beaucoup plus cher.
On a 11 épisodes, tel qu'on l'annonce, puisque 109 est censé faire 11 épisodes. Donc on a le temps de voir ça venir.
Il y a également une partie consacrée à l'actualité, dans la mesure du possible pour un semestriel. Ça s'appelle le cahier de tendance.
Oui. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.
On entend quelques notes de Living on a Jet Plane de John Denver. C'est la playlist de Barbara Carlotti qui continue. Titre qu'elle a choisi en référence à celui que vous interrogez dans ce cahier de tendance, le comédien metteur en scène Alex Lutz. L'entretien commence ainsi. Alex Lutz dit « J'attendais impatiemment la réouverture des salles, mais je suis un peu inquiet quant à l'embouteillage de films que ça va provoquer. » Vous aussi, ça vous inquiète?
Oui, bien sûr. Je crois qu'on est tous inquiets parce que on se réjouit évidemment de la réouverture des salles le 19 mai. Mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de films, un bouchon, un embouteillage, vraiment, et il risque d'y avoir des blessés. Enfin voilà, et c'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup pour le sort du cinéma justement indépendant. Et bien sûr que les blockbusters sont porteurs, ce sont des locomotives. Ça permet aussi au cinéma indépendant et au cinéma d'auteur d'exister. exister. Mais là, c'est vrai qu'on a envie de faire de la place au cinéma indépendant, au cinéma français. On a vu d'ailleurs, entre les deux confinements, que le cinéma français, justement, était très porteur.
Ouais. Réouverture dans deux mercredis.
Ouais.
Le 19 mai.
Compte.
Vous les comptez. Vous savez déjà le premier film que vous irez voir?
Ah oui, bah, revoir, parce que du coup, j'en ai vu certains déjà. Mais j'irai revoir Garçon Chiffon de Nicolas Maury et Mandibule de Quentin Dupieux.
Comment on fait un magazine de cinéma quand les salles sont fermées?
Eh ben, on le fait avec beaucoup d'espoir. On en parle d'ailleurs dans l'édito. Hein. Ça a été compliqué de l'imaginer, ce numéro, parce que justement, on était dans une phase un petit peu sombre. On n'avait pas de possibilité de se projeter. On a d'ailleurs eu 2 mois de retard par rapport à la sortie initiale, puisque ça doit être tous les 6 mois en librairie. Donc, il a fallu qu'on prenne un petit peu de recul et se demander justement comment parler de cinéma quand les cinémas sont fermés. Et c'est là que sont intervenus justement les dossiers thématiques, les feuilletons, les reportages. Il y a eu aussi ce besoin de s'accrocher à ces sections.
Il y a une chose que je n'ai pas dite, j'en profite pour le dire, pas de publicité dans French Mania, seulement les ventes et les abonnements. Ça se trouve en librairie, ça sort aujourd'hui, ça coûte 18,90 €. French Mania numéro 2, des Français à Hollywood, c'est le gros titre qui barre la une. Merci d'avoir été avec nous, Ava Kahn.
Merci beaucoup.
Vous êtes la co-rédactrice en chef de cette nouvelle revue. Dans un instant, on parlait d'un anniversaire.